Cascodeur Podcast, épisode 110. Triumvirat. Enregistré le 7 octobre 2014.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 110 des Cascodeurs. Nous sommes le 7 octobre 2014 et nous sommes en effectif réduit. Alors non, ce n'est pas les grèves d'Air France, non, ce n'est pas je ne sais trop quelle autre manif pour tous ou je ne sais quoi. Non, 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 c'est parce que...
C'est un putsch, c'est simplement un putsch pour prendre le pouvoir, donc on a viré Emmanuel.
Voilà, parce qu'il y en a qui voyagent beaucoup avec des conférences, tout ça, qui sont occupés, d'autres qui font du vélo dans Paris sur... le Vélib, les cheveux dans le vent,
ils font des publicités partout, donc ils peuvent pas être partout non
ça,
plus.
Hein, ils se la pètent, ils arrivent plus à passer les portes tellement voilà. Les chevilles ont enflé. Donc du coup, bah il reste la crème de la crème des cascodeurs.
Les meilleurs.
Donc il y a Arnaud, Vincent et moi-même Guillaume. Donc bienvenue à tous. On va commencer par une petite news là. Emmanuel, la dernière fois, il avait lancé cette idée de crowdcasting. Donc c'est-à-dire que des auditeurs, vous, hein, qui nous écoutez,
c'est ça,
qui peuvent, vous pouvez nous envoyer comme ça une, deux, trois minutes, cinq minutes de sur un sujet qui vous intéresse. Donc vous vous enregistrez, vous parlez de quelque chose que vous intéresse et que vous aimeriez que les auditeurs des cascodeurs puissent entendre votre belle voix. Alors c'est pas pour chanter, hein, c'est pas Rising Star ou c'était quoi le truc avec les kids, là, The Voice Kids, hein. Mais Papy Emmanuel est pas content, il est triste surtout, déprimé, parce que c'est peut-être pour ça qu'il a pas voulu venir, personne nous a envoyé quoi que ce soit, pas de petite bande son à faire passer, à mixer, donc en tout cas on réitère
notre appel,
cet appel, cette proposition, si vous avez envie de participer à l'épisode de cette manière-là, on est preneur. Et puis du coup, je crois qu'on va passer aux news, aux autres news. Alors, la semaine dernière, c'était Java One. Et Java One...
Tu y es allé.
J'y suis allé. Difficilement, après les problèmes de train, de RER, d'avion annulé, de tour de contrôle qui avait cramé à Chicago et tout ça. Donc, j'y suis finalement allé qu'un seul jour. J'ai fait l'aller-retour un peu à l'arrache.
Le chat noir.
Mais ah ouais, là c'est mon pire voyage à Java One. D'habitude ça se passe nickel. Donc entre les grèves d'Air France, etc. Enfin j'ai un peu accumulé toutes les misères du monde pour pouvoir arriver là-bas.
Sois heureux, t'as évité le volcan.
J'ai évité le volcan, ça c'est vrai. C'était pas mal la fois du volcan, c'est vrai. En fait j'ai pas vu grand-chose de Java One, mais j'ai l'impression qu'il s'y est quand même pas passé grand-chose. Un des seuls trucs qui était entre guillemets rigolo, c'est rigolo, je pense pas qu'ils l'ont pris comme ça, c'est quand Brian Guts, lors de la keynote, s'est fait virer de la scène.
Carrément.
Et c'est Mark Reinhold qui est venu le tirer par la manche. Bon, au début c'est accélère, et puis après c'est bon, viens, tu descends, parce qu'en fait apparemment Oracle avait peur que, vu que le ça avait traîné un peu, ils étaient en retard, etc. Surtout, peut-être, je sais pas si c'était vraiment que à cause d'IBM, mais en tout cas, IBM a fait encore une fameuse présentation longue et ennuyeuse avec des tonnes de bullet points de partout. Et est-ce que c'est eux qui ont vraiment pris de retard ou tout le monde qui a pris du retard? Et du coup, ils avaient peur que les autres keynotes à venir soient écourtés. Du coup, ils ont viré Brian Guts, alors que finalement c'est le truc le plus important, le plus intéressant pour les développeurs Java, finalement savoir qu'est-ce qui se prépare. Ouais. Et ben non, c'est lui qu'on vire. Donc finalement, il y a eu quand même le comeback de Brian Guts lors de la keynote de qu'ils appellent Community. C'est celle du dernier jour, du jeudi, où en fait Brian Guts, il a pu quand même et puis Mark Reinhold ont pu parler de ce qui pourrait venir dans Java 9, 10. Donc Mark Reinhold qui nous parle encore de Jigsaw, mais bon,
je sais toujours pas si ça avant.
Plus personne n'y croit.
22e, hein. Voilà. Alors, là, il a pas osé parler de train. Alors je sais pas. D'habitude, il parle de train. Là, il cherche peut-être une autre métaphore.
Il cherche le wagon là pour l'instant. Il essaie de s'accrocher. Il s'est perdu là. Il sait plus où il en est. La locomotive, c'est pareil.
Exactement. Et Brian Guts, là, il nous a parlé, par exemple, des value types qui pourraient être intéressants à rajouter au Java. Donc, par exemple, on pourrait avoir des sortes d'objets qui n'ont pas d'identité, donc un peu comme les types primitifs, et on pourrait peut-être mettre aussi, réutiliser en tout cas les value types pour avoir des collections, faire new array list de int et non pas de integer, c'est-à-dire sans le boxing. Mmh. Donc ça ouvre des perspectives assez intéressantes pour Java dans le futur, et puis aussi également pour les langages alternatifs, parce qu'on peut imaginer que certains langages peuvent inventer le type complexe, et on peut traiter le type complexe sans faire du boxing, unboxing, etc., en utilisant des value types, donc ce qui a l'air d'être assez intéressant. Donc c'était un des highlights, pour moi en tout cas, de la conférence. Sinon, à part ça, j'ai pas vraiment vu grand chose d'intéressant.
Alors, Emmanuel Yeté, il nous en dira peut-être plus la fois prochaine.
Ouais, peut-être qu'il nous fera un petit retour complémentaire là-dessus, ouais. En tout cas, sinon, de mon côté, je peux quand même faire un petit retour par rapport à Groovy, vu que il y avait mon collègue Cédric qui était là, et moi-même de l'équipe Groovy, et Groovy a gagné le Script Bowl.
Ouais. Bravo, félicitations.
Donc, merci. Donc, pour être franc, c'est ex aequo avec Clojure, mais en tout cas, Groovy est encore et à nouveau et toujours sur le podium. Je crois qu'il y en a que deux que j'ai perdu de tous les Script Bowl, et ça fait déjà pas mal d'années que ça. Tu dois peut-être mettre la sixième année, je crois qu'on le fait. Et je crois qu'il y en a que deux que j'ai perdu. Et enfin, où j'étais pas premier. Donc, je suis plutôt content. Et l'autre petite news là, c'était que Zero Turner Around là, qui avait fait, je sais pas si vous vous en rappelez, qui avait fait un.
J-Rebel, ouais.
Et J-Rebel, ouais. Et qui ont fait un petit et leur Rebel Labs, donc comment ça s'appelle leur filiale qui fait des études et tout ça. Et ils ont fait un prix Geek Choice Award Best Tech. Ils avaient listé 10 technologies.
Oui, ils avaient fait tout un sondage,
c'était
truc suite à leur sondage qu'ils avaient fait, oui.
Et du coup, ils ont fait une petite remise de trophée, et donc nous, on a reçu notre petit trophée, donc on était contents. Donc voilà pour mon petit retour de Java One. Donc on va peut-être passer aux news sur les langages, donc vu qu'on continue sur le thème Java de Java One. Il y a Taf et Pipi qui lance un... Non, c'est ta...
Takipi.
Tapiki.
Takipi.
Takipi. Donc c'est les ex-mavenistes. Jason Van Zyl.
Non, c'est pas Takari, c'est pas Tari, c'est pas encore les mêmes.
Ah non, c'est pas les mêmes. Oh là là, je confonds tout, mais je croyais que c'était Yakari, enfin bref. Et ils ont lancé un site Java is cool, dont on mettra évidemment le lien dans les show notes. Donc c'est un petit site assez joli avec des comptes de gens sur Twitter à suivre, dont notre grand chevelu par exemple, Brian Guts et autres, des sources de news intéressantes comme InfoQ, D-Zone, etc. On peut s'abonner à des newsletters intéressantes. Ça liste aussi toutes les conférences Java. Donc là, par exemple, on voit que la semaine prochaine, il y a Jax London qui sera là. Donc c'est pas mal pour voir les événements à venir. Donc voilà, c'est un petit site pour promouvoir Java qui est assez sympa.
On ne sait pas qui est derrière ça, si on sait.
Takipi.
Oui, tu connais Takipi. Je ne sais pas qui c'est Takipi.
Tu ne connais pas qui c'est Takipi. Ben moi en fait du coup je croyais que c'était Maven là.
Mais non, c'est
Takari, ça fait le look fait assez officiel comme
Ouais. Takipi,
c'est Takipi.
Bon, ce qui est... je croyais que c'était tu vois, je me suis trompé avec Takipi.
Ce qui est dommage ce qui est bien dommage c'est que c'est pas un wiki en fait, donc tu peux pas rajouter. Non, parce que c'est des choses qui il y a des nouveautés tout le temps, c'est des changements tout le temps.
Ouais, mais bon après il va y avoir 10 000 listes de Twitter à follow et 10 000 sites de
justement, c'est pour ça que je demande qui est derrière ça, pour savoir quelle est la pertinence du choix, en fait, c'est ça.
D'accord. Je ne sais pas, alors. Je croyais que c'était Jason et tout ça, mais
non.
Je confonds.
Mais non, voilà.
côté Java, il y a une proposition là pour avoir une REPL, R-E-P-L, une sorte de shell pour Java. Donc, la plupart des langages alternatifs, et puis pas que... pas que alternative pour la JVM, hein, je veux dire même du Python, du Ruby, tout ça, ils ont toujours eu un shell en ligne de commande pour jouer avec le langage, pour exécuter de manière interactive du code. Et il y a une proposition de d'avoir un shell, donc c'est pour l'instant c'est juste sous forme de d'issue dans le bug tracker là du JDK. Mm. Mais c'est vrai que ça peut être sympa pour pouvoir jouer avec Java et puis jouer avec une API, etc. Mais par exemple, là, je sais pas si vous avez essayé là la nouvelle feature dans IntelliJ, les Scratch Files, où en fait vous pouvez utiliser ouvrir une nouvelle fenêtre dans l'éditeur pour par exemple faire du Groovy, faire du Java, ouais, faire du ce que vous voulez, sans que ça crée forcément un nouveau
un fichier
dans votre projet, quoi. Mmh. Et du coup, ça permet de... Je trouve ça assez pratique pour tester des petits trucs, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, il y a mon copain Andrés Almirail qui travaille pour Canoo et qui fait le framework Griffon là pour faire des applications desktop avec du JavaFX et autres, ou du Swing, qui relance l'idée d'un JSR pour faire des rich desktop applications. Donc il y avait eu je sais plus le numéro du JSR, 296 je crois, et quelques années il y avait un JSR qui se proposait de faire on va dire des API un petit peu minimalistes pour démarrer, arrêter, qu'est-ce qu'il y avait d'autre pour gérer certaines choses, le life cycle des applications, ouais, desktop. Et là donc il propose l'idée en tout cas d'éventuellement lancer un nouveau JSR sur le sujet. Ouais. J'aurais tendance à dire que le desktop est quand même pas mort, hein. Je veux dire, on n'est toujours pas en train de coder dans le cloud, même s'il y a Cloud ID et compagnie. On n'est toujours pas en train d'utiliser, enfin, je veux dire, on utilise quand même un navigateur, on utilise des clients Twitter ou autre, ou du Skype qu'on fait. C'est pareil, c'est quand même toujours des clients lourds côté desktop. Donc, je pense que
sur les mobiles encore plus, hein.
Et c'est vrai que sur les mobiles, ouais, même s'il y a des webview, des trucs comme ça, bah on code toujours
natif,
du client lourd,
ouais,
natif à la plateforme. Donc je pense qu'il y a toujours un avenir pour ça. D'autres remarques à faire sur cette section Java, les copains?
Non, t'as tout dit.
Donc next, il y a les autres langages aussi.
Il n'y a pas que Java,
ouais. On entendait beaucoup parler de Go pour ce qui est langage système, donc remplaçant de C, C++, voire un peu de Python et de Ruby qui ont l'air d'avoir pris aussi. Finalement, c'est peut-être plus de ce côté-là que Go prend des nouveaux utilisateurs, je sais pas,
oui,
à voir.
Beaucoup de remplacements, puisque les Vagrant, beaucoup de trucs système qui utilisent ça pour effectivement, au lieu de faire ça à la
Docker,
place effectivement de Perl ou de, oui, Docker, etc. Donc, ouais.
Ils sont développés en Go. Ouais. Et là, il y a Rust qui est développé par les amis de Mozilla, qui approche de la 1.0. Et donc, il y a un article intéressant qui liste, l'état des lieux de Rust. Et j'ai l'impression qu'on en entend un peu plus parler de Rust. Alors c'est peut-être le passage à la 1.0 qui va faire qu'il y aura plus de buzz. Mmh. Parce que je me disais, bon, Go, ça a l'air d'être le nouveau langage système à la mode. Mais j'ai l'impression que Rust pourrait se faire remarquer dans ce secteur-là. À voir, c'est peut-être la version 1.0. Souvent, c'est à partir d'une version 1.0 hein, que les gens commencent à s'exciter vraiment.
Bah, disons que les gens ont pas tellement envie d'avoir un truc qui change toutes les 5 minutes. Enfin, sauf ceux qui font du Scala, bien sûr, mais les autres ont pas envie d'un casse.
Et pourtant, c'est pas en 1.0.
Ou
alors, vivement
que
Scala passe en 1.0.
C'est ça, je pense que c'est un peu là-dessus.
En fait, c'est 0.2.11, hein, c'est pas 0.2.2.
Ça y est, il faut encore me détester. Oh là là. Je serais pas vétéran.
C'est toi qui as commencé. Bon, moi, tu m'as tendu la perche, j'ai sauté dessus, mais bon. Et dans les autres langages, cette fois-ci, revenons sur la JVM. Il y a Stéphane Epardo là qui avait fait une présentation sur Ceylon, un peu l'état des lieux lors de la conférence JavaZone, et il y a la vidéo de cette présentation qu'il a donnée qui est disponible en ligne. Et JavaZone, ils sont super forts là pour mettre tous les talks en ligne avec les slides et tout. C'est, ils sont assez forts pour ça. Et du coup, si vous voulez savoir où en est Ceylon, je vous invite à regarder cette vidéo. On va reparler, tiens, quand même de Scala.
Ouais.
Donc dans le dernier épisode, on avait parlé du fork de Scala par type level, et je sais plus si on avait déjà parlé du deuxième fork. Il y a un deuxième fork qui est fait par Paul Phillips, là, celui qui avait claquer la porte de TypeSafe avec moult bruit, qui en fait lui a travaillé déjà sur un autre fork de Scala pour essayer de corriger les problèmes avec les collections, etc. Et du coup, avec l'annonce du fork de TypeLevel, il a proposé son fork sur GitHub de telle sorte à ce que bah, ça permette de discuter, de prendre le meilleur des deux mondes, etc. Et j'ai vu récemment là que il y avait une des premières features proposées par le fork TypeLevel là qui avait été alors je sais pas si elle est comment ils font s'ils sortent une nouvelle version, je sais pas exactement comment ils font, mais en tout cas ils ont annoncé une des premières features. Je rentrerai pas dans les détails parce que je sais pas très bien ce que c'est, mais c'est avec les histoires de générics de Scala, il y a une manière de je sais plus trop de simplifier en tout cas ce que proposait Scala par défaut et d'avoir une syntaxe un petit peu plus concise. Donc une première feature qui est là. Il y a aussi Golo 1.1 qui est sorti.
Il continue.
Donc, il continue son petit bonhomme de chemin. Et il y a des nouvelles features. Il y a des décorateurs type Python. Donc c'est les espèces d'annotations, on va dire, du monde Python. Puis d'ailleurs, ça ressemble plutôt aux annotations de Java aussi, mais qu'ils utilisent at machin. En tout cas, au niveau syntaxe, ça y ressemble. Il y a tout un tas d'autres petites améliorations sur les outils en ligne de commande, sur l'intégration avec, par exemple, si vous faites du Vim, je ne sais pas si vous connaissez Ctags, là, pour pouvoir aller rapidement vers une méthode, vers une classe, Golo, etc. Ouais. Quand vous êtes dans Vim, il y a l'outil Ctags. Donc, ça, c'est assez sympa pour naviguer le code. Et puis voilà, d'autres petites améliorations. Et puis nous arrivons, donc là on l'a gardé dans la section langage, mais c'est plus général que ça, sur l'algorithmique. Il y a un article qui est passé il n'y a pas très très longtemps, qui réexplique en fait les histoires de complexité et les grands O de N, grands O de etc. Alors, donc ça vous rappellera peut-être des souvenirs de quand vous étiez étudiant.
C'est ça. Ouais. Et ça c'est très très utile si vous comptez passer des interviews pour chez Google.
Ah ouais.
Parce qu'ils posent que des questions comme ça de O d'algorithmique et de complexité algorithmique.
Quoique là, j'ai vu un nouvel article d'ailleurs qui dit que Google, ils sont en train de revenir un peu sur leur manière d'interroger les candidats avec des quiz à la mort moelle nœud, des trucs super pointus, et en fait, ils vont avoir des scripts, on va dire, à passer des scripts, quand je dis script, une liste de questions, pour voir plutôt comment les gens réagissent,
ils changent, c'est bien.
Ouais. Comment, par exemple...
Enfin, ils s'intéressent à l'aspect humain.
Exactement.
Nous ne sommes pas des machines.
Nous ne sommes pas des robots, non. Et apparemment, ça a l'air de changer de ce point de vue-là. Mais néanmoins, pour en revenir à Big O, les notations, là, grand O, etc. Souvent, on parle de performance, et les gens ont peur. Ah oui, mais est-ce que Golo, c'est super rapide ou pas? Est-ce que, etc. Mais en fait, souvent, les problèmes de performance dans les applications, ça va être quoi? C'est tout ce qui est I.O., accès aux données, aux réseaux, aux bases de données, etc. Ou des algorithmes aussi qui sont codés avec les pieds et qui vont être en complexité n carré au lieu d'être en n log n, etc. Et souvent, quand vous avez de la logique un peu compliquée, si vous regardiez peut-être un petit peu la complexité de vos algorithmes et si vous essayez éventuellement de revoir et de mieux coder l'algorithme, vous gagnerez peut-être plus en termes de performance et de réactivité de l'application plutôt que simplement en ayant peur ou des a priori sur un langage plutôt qu'un autre, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est intéressant pour ceux qui font des choses un peu compliquées. Pour la majorité de nous, tous les gens qui sont en SSDI, etc., souvent c'est plus des applications de gestion. Et c'est vrai que là, c'est pas forcément compliqué d'un point de vue algorithmique. Et là, c'est plus ce que tu as dit, c'est plus des savoir ce qui prend du temps, les accès aux bases de données,
les I.O., les process I.O., etc.
Tout à fait. Clairement. Ensuite, Java Enterprise. Donc là, c'est quoi la musique de Star Trek, là, parce qu'on aurait pu faire un choix Enterprise, avec un petit jingle. Ouh. Ah, c'est tellement longtemps que j'ai pas vu.
Donc si en plus propositions de messages, vous voulez en plus nous proposer des musiques pour mettre dans l'épisode.
Des jingles.
Des jingles. Ça pourrait être sympa.
Et bruitage fait à la bouche, je précise. Alors côté Enterprise, donc c'est pas que Enterprise Edition,
c'est pas que Java.
Java EE, c'est aussi ce qui est Spring et autres frameworks intéressants. Il y a les nouveautés de Spring 4.1 et de Spring Boot. Il y a les Duchesses qui ont fait une interview de c'est mes collègues Brian Clausel et Sébastien Deleuze. Donc ils sont revenus un petit peu sur toutes les nouveautés de Spring 4.1 et de Spring Boot. Ouais. Et il y a aussi il est où l'autre lien, je le vois plus. Il y avait un retour aussi qui était suite à c'était suite à la conférence Arnaud, tu sais, l'autre article sur comment passer de config Spring. Là, c'était la suite à un jug.
Ouais.
Il y a un article intéressant sur comment passer des vieilles configurations Spring en XML à une configuration tout en Java avec des annotations, voilà, etc. Parce que bon, de nos jours, les applications Spring modernes, ils utilisent plus trop XML, c'est plus trop à la mode, même si c'est toujours supporté. Mmh.
Bah, c'est surtout qu'ils supportent maintenant, c'est ce qu'ils disaient, c'est qu'ils supportent essentiellement du côté Spring que Spring 4 aujourd'hui. Donc de toute façon, les vieux Spring 3, etc., c'est voilà, va falloir oublier. Ça fait partie de quand on faisait du Java 5, hein. Faut se souvenir. Donc voilà, donc il est temps de se moderniser. Oui, donc c'est un article qui revient sur cette partie-là de comment repasser notamment sur des versions full Java sur le côté Spring, puisque Spring met beaucoup aujourd'hui ça en avant, et notamment après Spring Boot où tout se fait par annotation, et voilà, ça va quand même beaucoup plus vite, et c'est vachement plus efficace que ce qu'on pouvait connaître il y a, je sais pas, 5 ans. Ouais, ne serait-ce que 5 ans côté Spring.
Passe, hein.
Ouais, c'est ça. ça passe vite.
Ça nous rajeunit pas,
ça, c'est ça. Et donc, Brian Clausel me disait quand même sur Twitter tout à l'heure, donc là-dessus, on le cite comme ça, il va avoir un peu de pression, c'est qu'il voulait proposer justement un retour de la conférence pivotale.
Spring 1 to GX.
Et donc, il va essayer de faire un retour sur Spring 1. Donc, voilà.
Ah, c'est cool. Ça.
Donc, donc, lancez-vous, voilà, contribuez, et effectivement, voilà. C'est un exemple.
D'accord, ouais, ça peut être sympa. Ouais.
Quand vous faites des confs, vous voulez en parler, vous voulez en échanger, n'hésitez pas. On peut
crowdcasting en prononçant correctement ou pas. pardon, un petit chat dans la gorge. Là, il y a trois articles successifs qui ont été écrits sur RxJava. Mm. Donc, on parle de plus en plus de tout ce qui est reactive programming, Reactive Streams, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, Reactive, c'est un peu le nouveau buzzword à la mode, et le grand représentant ou le grand pionnier du Reactive, c'est RxJava. Mm. Et là, il y a trois articles assez longs, hein, qui détaillent les bases, les opérateurs, les avantages qu'on peut avoir à programmer des applications de manière réactive. Donc si vous voulez explorer ça, vous pouvez regarder ces articles-là. Et j'en avais parlé, je crois, la dernière fois, dans le dernier podcast. C'était le New York Times là qui avait annoncé qu'ils allaient réécrire leur application Android en Groovy et aussi avec RxJava pour rendre l'application beaucoup plus réactive. Et donc je dirais aussi responsive, dans le sens où il n'y a pas de lag, où les choses peuvent être faites en parallèle, en streaming, etc. Donc on voit de plus en plus comme ça de cas d'utilisation du mot-clé, du buzzword réactive.
Faut-il que nos développeurs le soient ?
Ouais, on n'est pas toujours très réactif, hein, mais on fait ce qu'on peut. Hein.
C'est ça.
Et ah oui, et d'ailleurs un autre truc aussi sur RxJava, alors je l'ai pas mis dans les show notes, mais avant tout était, je crois, sous un même projet dans GitHub ou quelque chose comme ça, et là ils ont fait vraiment ils ont bien splitté, parce qu'il y a RxJava, mais il y a aussi RxGroovy, RxScala, etc., et RxJavaScript, ou je sais plus comment il s'appelle, RxJS, et donc là ces dépendances là maintenant, ces sous-projets là, qui essaie de rendre RxJava plus naturel à utiliser pour ces autres langages. Ils ont donc des nouveaux artifacts ID, nouvelles versions là qui sont sorties.
Ouais, sinon il y a aussi le manifeste réactif, je sais pas si vous l'avez vu.
Ouais.
Je vous mettrai le lien dans les show notes qui explique un peu donc c'est quoi les caractéristiques d'un système et d'une réactif.
D'accord.
Voilà.
Ouais, ça peut être intéressant effectivement. de voir le détail. Un autre article intéressant, c'est donc il y a Goldman Sachs qui a sorti ses propres collections, donc avec différentes caractéristiques. Et donc je sais plus, c'est dans cet article-là ou ici, ils font la comparaison entre ces collections-là, les collections et les streams de Java 8, les collections qu'on trouve dans Guava, etc. Et donc en tout cas pour leurs applications financières et autres, Goldman Sachs avait besoin de collections fine-tunées, améliorées, avec des caractéristiques particulières. Et donc là, il y a un article qui introduit justement cette API-là. Et normalement, donc c'est la première partie. Donc je pense qu'on devrait avoir d'autres parties plus tard. Donc si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, il y avait JS Collections qui est aussi utilisé par exemple dans le projet Reactor, là, pour faire encore une fois du Reactive. Pour améliorer les performances, apparemment ça a l'air d'être de la balle. Je sais pas si vous avez déjà regardé ça, les collections alternatives, ou vous utilisez toujours bonne vieille collection du JDK.
Un peu de Guava de temps en temps, mais effectivement
ouais,
je peux aller
Commons Collection.
Personnellement, ouais. J'ai pas eu l'usage, mais
d'accord.
Après je
nous côté Groovy, c'est toujours les collections du JDK, mais on les enrichit un petit peu avec des méthodes.
Oui, voilà. Après, je dis celle de Groovy,
la stream et tout ça, mais malgré tout, voilà. Donc il y a pas de, on n'a pas sauté le pas en dire ah oui, mais non, ça c'est pas une collection. Oui, mais moi j'ai une ArrayList, qu'est-ce que je fais? Ah ouais, mais non, c'est une JS collection. Ah bon? Mais en tout cas, il y a pas mal de mouvements là-dessus, alors qu'on pourrait se dire que les collections, je sais pas, une liste et une liste. Eh ben non. Donc ça peut être intéressant de jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, tiens, ça c'était une des petites annonces de Java One que j'ai oublié de mentionner. Donc j'ai mis dans Enterprise parce que ça va intéresser les boîtes en général. Il y a Bintray, donc ceux qui est fait par JFrog, c'est-à-dire ceux qui font aussi Artifactory, etc. Bintray, là, c'est leur solution de déploiement continu, delivery, etc. On utilise nous projet open source, par exemple Groovy, on utilise Bintray pour y compris pour déployer même sur Maven Central. Et donc nous maintenant, grâce à JFrog et Artifactory et Bintray, nous quand on fait des releases, on remplit un petit formulaire avec les numéros de version et tout ça, et c'est juste en un clic et tout se fait de manière transparente et publié, poussé de partout. C'est assez fort, et du coup là ils font ils font aussi une version premium de ce service qui est gratuit, on va dire, pour l'open source, mais une version premium pour les entreprises, donc une version commerciale, que les entreprises pourront utiliser pour faire leur propre continuous delivery et tout ça. Arnaud, tu veux en dire peut-être quelques mots de plus? Enfin, t'as peut-être pas regardé forcément.
J'ai pas tout regardé, mais.
L'offre premium.
J'ai pas regardé effectivement tout le détail de l'offre premium, mais c'est vrai que c'est eux qui aujourd'hui quand même ont un énorme attrait. De toute façon, il n'y en a pas 50, hein, mais pour la gestion des stockages. Et donc, l'avantage, c'est qu'ils gèrent pas mal de formats, de types de repository pour déployer les binaires qu'on veut partager. Comme tu le disais, c'est gratuit souvent pour l'open source, et après les entreprises elles l'utilisent. Donc là aujourd'hui, dans la partie premium, il y a sur la capacité de storage, où justement je trouve que ça devient c'est illimité sur le storage et le download. Pas mal de statistiques, parce qu'après c'est toujours les trucs qui sont pratiques quand on déploie des binaires, d'avoir un peu des infos de finalement qui les utilise, comment c'est téléchargé, c'est les choses qu'on cherche souvent. Donc ils ont pas mal de choses à ce niveau-là, pour justement avoir du tracking. Donc ça c'est toute l'offre premium qu'ils sont en train de mettre en... Donc il vient d'être annoncé là à Java One, comme tu le disais.
À Java One, ouais, effectivement.
Il faudra penser à leur demander le chèque pour la pub qu'on vient de leur faire là. De sponsoring.
Faut qu'on en cite 3, c'est ça, pour pas que ça soit de la pub. Mais le problème, après il y a Sonatype avec Nexus, mais il y en a pas de troisième. Donc le problème, c'est qu'on a fait le tour. Hein, désolé. Non, après effectivement.
Ouais, non, c'est vrai que ils sont assez. C'est vrai qu'on. Ouais, j'ai tendance à leur faire de la pub aussi, mais c'est vrai qu'ils sont
quand
même.
Quand on aime bien quelque chose, c'est normal. Hein.
Ouais, c'est vrai. Parce que nous, quand on est passé à l'infrastructure là. Donc TeamCity, Artifactory, Bintray et tout, je veux dire, ils ont passé mais vraiment un gros nombre d'heures pour faire en sorte que ce soit vraiment smooth, que ça se fasse vraiment en douceur pour nous. Alors bon, ça les a aidés aussi à corriger des bugs, des problèmes qu'ils avaient, hein. Donc ils ont raison aussi d'aider les projets open source, parce que ça leur a permis de finaliser leur version premium aussi, hein. Donc c'est gagnant-gagnant comme situation, mais c'est vrai que, enfin, je veux dire, ils nous ont vraiment bien aidés, et du coup, voilà, c'est du bon produit, et j'ai tendance à recommander, parce que nous, on en est très contents, en tout cas. qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, côté middleware, qui s'est ajouté ça, c'est peut-être Emmanuel. Il y a Apache Storm, qui est devenu un projet top level. Ouais.
Qu'est-ce qu'Apache Storm?
Il a fini son incubation, c'est ça?
Un des trucs, il était dans l'incubation, ouais, donc Apache Storm, c'est un des projets autour de... encore de la sphère Hadoop, qui est aussi poussée par Hortonworks, etc. Donc avant, effectivement, il était juste en incubation, et maintenant, bah, c'est du solide. Du coup, le board... Non, comment ça se passe chez Apache, c'est le board, donc qui c'est qui vote exactement pour le passage en top level?
Ce sont les...
Vous qui connaissez mieux Apache que moi.
En fait, t'as un comité de surveillance qui est attribué quand tu rentres un projet en incubation. Ouais. Et c'est à la fin de cette période-là, quand il y a tout un tas. Donc, il y a le board qui va valider la sortie. Une fois que le projet a rempli un certain nombre de conditions, donc il y a tout un tas de conditions à respecter pour que le projet soit viable et passe en sortie.
Conditions intéressantes d'ailleurs. Ouais.
Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que c'est autant des conditions sur la communauté que sur le projet lui-même. C'est pas uniquement que orientées IP ou des choses comme ça, mais c'est aussi le fait que le projet il est X contributeurs, qu'il soit d'horizons différents.
Voilà, exactement. C'est ça.
Il y a des membres, donc obligatoirement, il y a des membres qui sont rattachés au projet, puisque chez Apache, il y a une notion de membre de la fondation, donc ceux qui sont censés représenter cette fondation et véhiculer son état d'art, ce qu'elle représente. Et donc, c'est ces membres-là qui, eux, vont piloter le projet pendant la phase d'incubation, vont devoir remplir donc tout un cahier des charges pour pouvoir en sortir. Et une fois que c'est fait, c'est là que le projet devient top level et a son propre directoire, son propre PMC, un groupe de gestion, et voilà, prend son envol, et voilà. Donc c'est la sortie elle-même, je crois que c'est juste une présentation effectivement devant le board, comme quoi ils ont terminé leur période, rempli toutes les conditions,
qu'ils font tout à la manière Apache.
Et donc il est temps qu'ils prennent son envol, qu'ils se créent leur propre PMC et que voilà, ils sont grands, ils sont...
D'accord.
Et généralement aussi, ils sont rattachés souvent. Voilà, c'est donc le cas à Hadoop. Ils devaient être rattachés au départ au projet Hadoop. Donc, c'était une partie de l'équipe Hadoop qui devait piloter ça.
Ouais.
Et effectivement, après, le but, c'est qu'il y ait une véritable communauté qui se crée et qui soit indépendante, autant d'une entreprise que des autres projets. Voilà, que ça soit vraiment.
Et c'est pas limité dans le temps, hein. Ça peut durer, ça peut prendre 6 mois, ou ça peut prendre 2 ans, 3 ans.
Ça peut prendre plein de temps, ou ça peut même jamais atterrir. C'est ce qui se passe aussi des fois.
La majorité n'atterrisse pas. La majorité
La minorité sort de l'incubateur.
D'accord.
Et d'ailleurs, la grosse différence par rapport à d'autres fondations, c'est que souvent, d'ailleurs, dans l'incubateur, en fait, on va récupérer que des projets qui existent. C'est-à-dire qu'il y a très rarement des projets qui arrivent dans l'incubateur qui partent de rien, qui partent qui sont créés dedans et qui vont. C'est généralement des propositions d'un projet, soit Apache ou autre, qui va dire, bah tiens, j'ai ce bout de code là, machin, qui est intéressant, qui a une logique, machin, je voudrais le faire rentrer chez la fondation, et donc je le propose, et c'est là que va se construire la communauté, que le code va s'assainir, etc., les IP, tout ça. Voilà, tout va se gérer dans cette phase d'incubation et en ressortir ou pas en fonction de la motivation de l'équipe et de
qui sont. Donc l'incubation, c'est pas juste 9 mois, quoi, c'est ça?
Non, c'est ça, ça dépend, effectivement.
Ça marche pas comme ça.
Voilà, c'est ça.
D'accord. Parlons après enterprise middleware, on reste quand même un peu toujours dans ces domaines-là. Le cloud. Avec CloudBees, je vais peut-être vous laisser parler de ça. Allez. Tiens.
On parlait d'orage et de tempête. Bah là, effectivement, c'est ce que CloudBees a annoncé. Donc c'était lors Java One ou juste avant,
Juste avant Java One.
Ils ont annoncé donc l'arrêt de leur offre orientée hosting, donc PaaS. En gros, aujourd'hui, CloudBees, il y avait trois offres. Je vais essayer de pas me tromper. Il y avait l'offre Run at Cloud, donc qui était la fameuse offre PaaS dans laquelle on pouvait déployer des applications JEE ou autres, puisqu'il y avait du Play et tout un tas d'autres hosting qui étaient offerts. Donc ça, c'était vraiment du runtime tel qu'on en retrouve chez un peu les concurrents. Chez Spring, vous avez, comment ça s'appelle
Cloud Foundry.
Ouais, Cloud Foundry. Bon, il y en a pas mal. Après, sur du PaaS, il y en a un certain nombre. Ils ont l'offre Dev, où là, c'est la partie Jenkins on demand. Donc là, où effectivement, les projets achètent un Jenkins, le configurent et font leur job, qui, généralement, déployé chez CloudBees, ça allait plus vite et c'était plus simple. Et la troisième offre, c'est leur partie Jenkins entreprise, où là, c'est à la fois du support et la vente d'un Jenkins débuggé, en gros. Pour faire simple. Et donc effectivement, ils ont décidé, ils ont annoncé l'arrêt de la partie hosting. Alors ça fait longtemps que j'ai lu l'article, mais effectivement les grosses raisons, c'est la concurrence, puisqu'effectivement il y a pas mal de monde sur le domaine. C'est un domaine qui évolue à la fois assez vite en termes de choses à supporter, d'environnement à faire, et d'un autre côté c'est vrai que le marché est pas si réactif que ça. Voilà, les entreprises ont quand même toujours du mal. Il y a toujours les notions de cloud privé qui viennent se greffer là-dessus. Où est-ce que je mets mes... Donc pour la taille de CloudBees, il était aujourd'hui pas jouable de continuer à se lancer sur cette aventure qui rendait service. Hein. Personnellement, j'utilisais dans le cadre du dev, mais effectivement, c'était pas du payant ni même du PaaS pour faire de la vraie prod. C'était plus pour avoir un environnement facile de je développe et je mets en pré-prod un truc. Mais voilà, aujourd'hui, pour eux, ça leur rapportait pas assez par rapport aux investissements et à tout ce qu'ils ont besoin de couvrir pour faire vivre cette offre-là. Donc voilà, donc ils ouvrent ça vers d'autres offres. Et donc, on en retrouve. Et donc, ils expliquent dans leur blog post aussi qu'ils vont aider à migrer vers d'autres plateformes en France.
Ou Cloud Foundry, d'ailleurs, j'ai vu ça.
Ouais, Cloud Foundry ou nos petits français de... Comment qu'ils s'appellent
Clever Cloud, non, comment c'est déjà? Non, c'est pas cela.
Si,
Clever Cloud, c'est bien ça.
Clever Cloud, ouais.
Bon. Je suis en train de me dire, attends, c'est bien ça le nom.
je vérifie que c'est dans le bon sens.
Pardon,
mais c'est
désolé.
Ça.
Autant pour nous.
Désolé. Donc ouais, voilà. Donc Clever Cloud et puis d'autres. Donc voilà. Donc effectivement, aujourd'hui, ils arrêtent eux cette offre qui était trop imposante et qui leur demandait trop de choses. Et donc ils expliquent dans un long blog post pourquoi ils arrêtent. Voilà. Donc c'est fini. Donc ça s'arrête au 31 décembre de mémoire, je crois, le hosting. Et voilà. Donc il faut migrer. Si vous avez des applications chez eux, il faut migrer chez quelqu'un d'autre. Voilà.
Et toujours sur le cloud, nous on a notre cloud souverain quand même, on a deux projets de cloud souverain, n'est-ce pas?
On en a deux beaux, hein. Ils sont beaux et gros, on a CloudWatt.
Moi aussi j'en ai deux.
c'est pour ça, ils en voulaient deux, ils voulaient de la concurrence, donc ils se sont dit on va mettre deux fois plus d'argent, on va clé CloudWatt et Numergy. Et voilà, donc aujourd'hui, ça fait
deux. Pas déçu.
C'est ça fait deux ans que les projets ont été créés, et puis il y a différents articles qui sur le net qui ont fait un petit peu le bilan, et obligatoirement, voilà, la facture est lourde pour ce qu'ils ont accouché, c'est-à-dire de quelques souris. Il y a pas grand-chose à. Aujourd'hui, ils ont eu beaucoup de mal à se positionner par rapport aux offres existantes. Comme on en parlait de CloudBees, qui eux-mêmes n'y arrivent pas non plus, mais voilà, eux, c'est pareil, ils ont du mal à se positionner dans les offres concurrentes, à trouver un différenciateur du fait c'est coucou, on est français, cocorico, on va être les meilleurs. On a des entreprises françaises qui offrent des services un peu similaires, hein, tu parlais tout à l'heure d'OVH. Là, ils sont en train de faire justement leur conférence chez OVH où ils annoncent pareil des chiffres vertigineux puisqu'ils s'implantent dans le monde, etc. Donc voilà, il y a des success stories français qui n'ont pas eu besoin du tout de l'aide de l'État. On parlait donc de Clever Cloud et d'autres, Gandhi. Enfin voilà, la liste est longue. Et voilà, donc aujourd'hui, ces projets-là, ils se cherchent toujours. Ça discute de est-ce qu'on les merge, on les fusionne, on les fusionne pas. Qu'est-ce qu'on en fait? On les garde. Ça reste du. Donc après aujourd'hui, ils essayent de changer un peu le fusil d'épaule et d'en faire un peu plus des startups, parce qu'effectivement ils avaient créé ça un peu à la façon grosse boîte, donc avec plein de process très lourds et tout ce qui va bien. Ils sont bien rendus compte qu'effectivement
très agile,
voilà, l'agilité était pas vraiment au rendez-vous et que donc ils arrivaient pas trop à atteindre aucune cible. Donc là, les derniers remaniements qu'ils avaient fait, c'était effectivement mettre un peu d'esprit entrepreneurial dans ces projets là mais voilà, aujourd'hui ils ont, enfin le bilan reste très très négatif. Je sais plus combien ça a coûté à l'État et combien ça rapporte.
Ah, c'est plusieurs centaines de millions là, c'est ça, c'est au moins 200 millions pour les deux, et au final ils ont quoi, quelques millions,
voilà, c'est ça,
de chiffre d'affaires.
C'est ça.
Donc dépenser 100 pour en gagner
un ou quelques-uns, c'est voilà.
Pas très rentable quoi.
Donc voilà. Donc aujourd'hui, bon, c'est un échec assez retentissant, mais bon, pour l'instant, malheureusement, ça en saura pas pour l'instant, mais voilà, ça continue. Donc
non, mais c'est pas grave, de toute façon, ils enlèvent une tranche d'impôt, donc ça va couvrir les frais.
Ouais, c'est ça. Non, c'est toi qui paieras deux fois plus les projets, ouais, c'est ça.
Ben j'espère qu'ils peuvent m'aider gratuitement sur ce cloud là si je le paye avec mes impôts.
C'est vrai que ça, on pourrait demander. Voilà. Donc voilà.
Bon, allez, revenons un peu plus terre à terre avec le mobile et le desktop.
Ouais.
Donc pour ceux qui suivent JavaFX, là il y a pas mal de petites news. Là il y a un article avec les derniers développements là autour de JavaFX, des modules sympas avec Font Awesome et FX si vous voulez avoir des jolies icônes et tout ça. Il y a quelques pointeurs intéressants sur le sujet. Donc je suis pas un expert, donc je vais pas aller plus dedans. Il y a JBoss qui, alors ça c'est Emmanuel qui a dû rajouter ça, donc est-ce qu'on a le droit de zapper vu qu'il est là?
Oh, il est méchant.
Il y a JBoss mobile, alors, ouais. Ils ont pas mal de projets là avec AeroGear, etc. autour du push, autour de tout ça, donc ouais. Comment là c'est des vidéos hein, je crois,
ouais.
Est-ce
vidéos
que c'est sous forme de tutoriel en fait, c'est ça, hein, ou des screencasts?
C'est ça, ouais, c'est des screencasts de
où ils montrent
minutes,
différentes choses. Donc par exemple là j'en vois une, la développée avec AngularJS et puis Ionic, etc. dans Eclipse, et puis derrière avec du JBoss, etc. Donc pour ceux qui font du mobile sur du JBoss, ça peut être intéressant avec du JBoss en back-end, je veux dire. Et tiens, en préparant les show notes, il y avait Vincent qui nous parlait des zones faciles à toucher sur les femmelettes, mais je crois qu'il avait eu un problème, il a peut-être besoin de ludettes en fait, malgré son opération des yeux.
Ouais, j'ai besoin des lumières pour m'expliquer.
Donc c'est les zones faciles à toucher sur les femmelettes, pas sur les femmelettes.
D'accord.
Évidemment. Donc où il montre quelques études qui ont été faites, statistiques, etc., où finalement il y a certaines zones qu'on arrive plus facilement à atteindre avec son pouce et ses doigts sur une tablette ou un gros téléphone.
Sauf modification génétique.
Voilà. Si on a 10 doigts ou une main qui fait 50 cm de large. Et du coup, c'est vrai que pour des considérations, on va dire, de design, d'expérience utilisateur, d'ergonomie, peut-être que les trucs importants, faudrait mettre les boutons, tout ça, aux endroits où on peut atteindre facilement les zones de l'écran, c'est quoi. Ça, c'est intéressant. Après, passons côté outillage. Je vais laisser Vincent nous parler d'un super outil dont j'ai jamais entendu parler.
C'est
quoi les...
C'est un truc qui s'appelle XWiki.
Ah, l'éponyme.
L'éponyme.
Éponyme.
Non, alors, ouais, je voulais juste annoncer la sortie de XWiki 6.2. En fait, donc on fait des grands cycles de release un par an, en fait. Et là, toute cette année, c'était le cycle 6.x. Et là, on arrive on touche à la fin du cycle 6.
Après avoir touché qui
culminera à la fin décembre avec la 6.4, mais qui sont des bug fix release à la fin. Disons qu'on a fini les grosses nouveautés. Et donc là, avec la 6.2, on est super content parce qu'on vient de sortir une nouvelle skin qui, à notre avis, change beaucoup de choses et qui est basée sur Bootstrap, utilise HTML5, utilise Font Awesome que tu venais de citer pour les icônes. Elle est responsive, elle marche sur les mobiles, sur les tablettes.
J'avais pas essayé le côté responsive.
T'essaieras, cool. Tu verras, c'est assez sympa.
D'accord. Ah ouais.
Et donc voilà, j'ai l'impression qu'on a passé un cap, et c'est vraiment, vraiment joli, et c'est sympa. Et le store d'applications commence à être vraiment bien, avec des applications plusieurs mieux finies.
Notre wiki à nous pour les casse-codeurs, il est aussi en 6.2.
Ouais, il est passé
avec
dessus.
Avec la
nouvelle
skin, et c'est vrai que c'est sympa. Moi, j'aime bien.
Ouais.
Yep. C'est très joli.
Yep. Voilà.
Ensuite, donc on va pas faire du bashing d'XWiki, mais on va parler de Bash. Avec le Bash Gate.
Le Bash Gate.
Arnaud, t'avais suivi, toi?
Vaguement de loin, parce que vu qu'il y a des issues de sécurité maintenant tous les 3 jours sur le net, entre toutes les mises à jour qu'il faut faire, c'est vrai que ça devient un peu fatigant. Mais effectivement, ils ont découvert sur Bash, alors sur toute version, alors 6.2, je sais plus quoi, une manière,
non, 6.2,
en fait,
c'est X-Wiki, ça.
Où en appliquant, enfin, où en appelant des fonctions avec des appels de fonctions, on pouvait, à l'aide de syntaxe un peu mal fichue, essayer d'injecter des traitements dans les scripts. Donc ça permettait potentiellement de faire des malversations sur vos postes à l'aide de simples scripts bash sans passer par sudo ou autre chose que dans le genre. Donc il y a un certain nombre de trucs, donc j'expliquerai pas les détails, je les connais pas, et effectivement ça c'est un peu pénible de devoir tout le temps mettre à jour. En gros, faut quand même essayer de se mettre à jour quand on est sur des systèmes de prod, parce qu'effectivement le risque est avéré. Ça concerne donc toutes les versions avant la 3.2, les dernières 3.2, les dernières fixes en 3.2. Donc sous Mac, il y a Apple qui a fourni des fixes, sous Linux aussi, il y a eu des mises à jour.
C'est pas complet les fixes, hein. Ils ont redécouvert d'autres failles du bash, je crois, et je suis pas sûr encore qu'on en soit vraiment au bout. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait dit sur Twitter là que, ah oui, bon, bah Apple, c'est bien, ils ont corrigé 2 failles, mais apparemment il y en a d'autres qui ont été découvertes.
Bon, donc effectivement, c'est le problème là du propriétaire, hein, vive l'ouvert. Bon, effectivement, sur les distros Linux, bah c'est pareil, on trouve des versions mises à jour. Alors après, ça dépend desquels, des LTS, enfin des distros que vous utilisez pour avoir les mises à jour. Ouais. Mais généralement, il y a les mises à jour qui sont disponibles.
Et tu as compris, Arnaud, est-ce que tu as compris pourquoi, par exemple, sur Mac, c'est pas disponible par l'update classique?
Oui, si. Justement, Apple a fourni 2 correctifs qui sont disponibles avec l'update center, ou je sais pas comment ça s'appelle. Hein.
Ah ben, je n'ai pas vu cela, moi. J'ai vu que fichier DMG à télécharger spécifiquement à part, etc.
En fait, ouais, quand tu vas dans, enfin oui, c'est ça justement. Enfin, c'est pas.
Il est pas dans la liste des updates.
Moi, quand j'ai fait mise à jour de logiciel, je l'avais. Hein, il était apparu. Et c'est là qu'il m'a fait télécharger le truc.
Ah bon. Ouais. J'ai pas eu. Ok. Bon, continuons.
Mais je pense pas que ça apparaisse tout le temps pour tout le monde. Je sais pas trop quelle est la fréquence ou quelle est la logique derrière ça. Parce que par exemple, il y avait eu la mise à jour de Mavericks il n'y a pas très très longtemps, et moi je l'ai pas vu tout de suite, et je l'ai pas vu avant au moins 2 semaines, enfin, et sans aller volontairement checker, quoi.
Mais ça fait partie des command line tools, donc je sais pas quand est-ce qu'ils sont mis à jour. Après, ça doit dépendre aussi si t'as installé Xcode ou pas sur ta machine, enfin il y a tout un tas de trucs à mon avis dans le genre là qui doivent jouer en fonction de, mais je sais qu'effectivement il y en a, toutes les sources que j'avais vues précisaient qu'il valait mieux télécharger des DMG qui étaient disponibles chez Apple. Après voilà, pour les vrais OS, on va dire, pour les Linux, etc., les mises à jour, elles sont sur les repos de sécurité, donc ceux qui les appliquent automatiquement, ça sera déjà fait en silence, ceux qui non, vous pouvez le faire à la main. Brew, moi je sais que j'utilise Brew pour Mac, eux c'est pareil, ils ont mis à jour, et donc il y a une mise à jour de Brew, de Bash pour Brew, et donc qui permet d'éviter le bug. Voilà, donc bon, bah encore une fois de plus, passez sur tous vos serveurs de prod et une nouvelle faille à corriger, et si vous voulez pas avoir des petites surprises un matin.
Ensuite, peut-être que Vincent, tu as suivi ou pas l'histoire de Markdown, Command Mark,
un petit peu, mais je me souviens plus des noms de la personne, donc celui qui a inventé Markdown.
Gruber.
John Gruber.
Ouais, c'est ça. Apparemment, c'était Jeff justement Atkins, c'est ça?
Jeff Atwood,
ouais, c'est ça. Qui lui, c'est lui qui un peu insuffle plus des nouveautés dans le monde Markdown, et qui a un effort de standardisation, qui a lancé un effort de standardisation de Markdown. Et d'après ce que j'ai compris, donc il aurait demandé au créateur original son accord, et ça lui aurait été refusé. Globalement en synthétique,
c'est ça.
Alors je sais plus très bien pourquoi, mais en gros le créateur dit c'est suffisamment bien comme ça, je vais laisser la liberté aux autres de pouvoir avoir différentes versions, au contraire. Moi je préfère qu'il y ait plusieurs versions, et chacun, et il refuse sur le nom, en fait. Et voilà, c'est ça, le grand débat c'est sur le nom. Donc il avait proposé, donc Jeff Atwood avait proposé plein de noms, et il a dit non, ça va pas, je refuse ces noms-là, parce que ça sous-entend que la version que j'ai fait, c'est pas la standard.
C'est ça.
Voilà. Donc en fait, il veut un nom qui soit très neutre.
Et du coup, c'est Common Mark.
Ça serait Common Markdown.
Je sais pas, ça a été tranché ou pas finalement.
Bah là, dans l'article qu'on a mis dans les show notes, ouais, il a mis Common Mark.
Ouais. Ils ont l'air de partir là-dessus.
Et c'est rigolo parce que le logo de Common Mark, c'est quand même un M avec une flèche qui va vers le bas, donc Markdown.
Markdown.
Donc il a quand même, il y a un petit clin d'œil quand même à Markdown, on va dire, dans le logo, je trouve ça assez rigolo. Mais bon, ouais, c'est un peu dommage cette histoire.
Ouais, c'est toujours les...
C'était l'occasion, enfin, je veux dire, sa pseudo-spec de Markdown à Gruber était pourrie, pleine de trous, et enfin, c'était juste un blog post décrivant.
Ouais, j'ai pas bien compris pourquoi il s'accrochait comme ça. Il y a peut-être peur de perdre la paternité, je sais pas.
Alors que ça le dérangeait pas qu'il y ait d'autres projets dérivés qui utilisent le nom Markdown. Mais pour celui-là, le fait qu'il y ait aussi des grosses boîtes derrière, parce que derrière, enfin, il y a GitHub, Reddit, FogCreek avec, enfin Stack Overflow avec Atwood, etc. Ouais. Et du coup, ça lui a pas plu apparemment. Mais il a l'air d'être assez spécial, hein, Gruber quand même en règle générale. Enfin, donc en attendant le support à Ski Doctor, un jour peut-être dans XWiki.
Le problème c'est
qu'à Ski Doctor et pas.
Ouais, c'est qu'il manque des événements encore.
Effectivement, c'est ce que j'ai vu, ouais. Quoi d'autre? Tiens, il y avait une petite classe là qui fait un peu le tour de Twitter, là, un Fast Class Path Scanner.
Ouais.
Alors, Vincent, tu vas peut-être tu veux
non, ça permet, ça, c'est une petite librairie, mais elle est même, enfin, c'est fait par une personne.
C'est pas une librairie,
c'est une classe. Ouais, c'est pas réalisé, donc tu peux pas trouver un repo Maven ou autre mobilier. Qui permet simplement de retrouver un certain nombre de classes en runtime basées sur certains critères. Donc tu veux dire toutes les classes dans tel package ou qui ont telle annotation, etc. Donc c'est un petit outil sympa qui se base, j'ai regardé Apple Code, qui se base sur le ClassPass initial en fait. C'est-à-dire qu'il fait, il récupère, enfin, un système de java.class.class. System.getProperty, java.class.pass, et il va aller parcourir, il va être capable d'aller lire sur le file system, donc il va aller trouver l'emplacement du fichier, des fichiers jar ou des répertoires qui sont dans le ClassPass, il va les lire, et il va lire seulement les headers des fichiers, pas lire toutes les classes, qui permet de ne pas avoir à les loader en mémoire, ça qui est intéressant. Oui. Et il va pouvoir te retourner donc l'ensemble des classes qui matchent tes critères de recherche.
Du coup, ce qui est marrant dans le code, c'est qu'il se tape vraiment les bytes, quoi, pour lire le bytecode, tu vois, sans utiliser ASM ou un autre truc.
Je suis en train de lire, donc, ça fait peur.
Je sais pas si c'est très très solide ou pas. Surtout en fonction, bah, tu sais, de entre JDK, allez, on va dire de 5, 6, 7, 8, 9. Il y a eu des changements avec les stack frames, etc. Donc je sais pas si c'est solide par rapport aux différentes versions de bytecode Java. Ça, c'est peut-être à vérifier. Mais en tout cas, Vincent, là, comment il s'appelle déjà l'autre?
Alors il y en a un autre qui s'appelle Reflections, qui est sur code.google.com. Nous, c'est celui qu'on utilise chez XWiki depuis quelques années déjà, Reflections. Il est toujours pas en version 1. En revanche, lui, c'est encore un de ceux qui fait des 0.9.9 quelque chose.
Non, je ne veux pas.
Mais il est régulièrement gradé, mais voilà, on utilise celui-là, il marche plutôt bien, on n'a pas eu trop de problèmes. Et surtout, c'est qu'il sait bien gérer, c'est ça le truc, c'est qu'il sait bien gérer les différents environnements. Parce que par exemple, tu prends un JBoss, tu vas voir que si tu regardes dans le class loader, si tu regardes les URL qui sont dans les URL class loader, tu vas avoir des URL spécifiques pour JBoss avec des préfixes qu'ils ont enregistrés, etc. Donc du coup, il faut que ton outil sache les comprendre, sinon tu n'auras pas tous les résultats.
D'accord.
Donc c'est là où je pense que le Reflection est peut-être mieux supporté pour le moment que l'autre, par exemple, qui est qu'une seule classe qui a, je pense, c'est une petite classe sans prétention. Faite comme il est utilisé par la personne qui l'a codé.
Ouais. Voilà. Et c'est vrai que par rapport, dans les avantages de ces outils-là, donc le fait que ça load pas la classe, donc ça lance pas les static initializer, etc.
Voilà, ça c'est un avantage.
Pas d'effet de bord.
Intéressant.
Et surtout que, loader une classe, malgré tout, ça a quand même un coût. Et que du coup, quand t'as des, par exemple, même côté Spring, quand ils font du class path scanning pour trouver tous les at bin, les at REST Controller, etc., bah, ils font aussi la même chose, et c'était quelque chose d'assez coûteux. Donc, par exemple, côté Spring, ils ont utilisé ASM pour lire le bytecode. Qu'au moins, celui-là, au moins, tu sais que ASM supporte les différentes versions de bytecode. Mais en tout cas, c'est important pour avoir des startups rapides d'applications qui dépendent de ça.
Bon, faut juste conclure en disant que ces outils-là, c'est bien, hein, mais faut faire gaffe, ça peut failler dans certains environnements. Nous, ça nous est arrivé plusieurs fois dans XWiki au fur et à mesure du temps, et on a dû upgrader à des versions plus récentes, ou remonter des bugs, ou envoyer des patchs, etc. Notamment donc avec l'intégration JBoss, par exemple. Donc, c'est pour eux, parce qu'ils utilisent VFS, en fait. Ils ont un Virtual File System, donc du coup, ça marchait pas.
Avec leur truc, d'accord. Dans un registre complètement différent, donc on avait parlé... Enfin, en tout cas, cité Docker tout à l'heure quand on avait parlé de Go. Là, il y a un article qui explique comment faire tourner des applications graphiques aussi dans Docker. Donc, c'est pas juste pour faire, on va dire, du
command line et du serveur.
Command line, etc. Mais on peut arriver à faire tourner aussi des applications graphiques et puis voir l'écran. Donc là, j'aurais tendance à dire, c'est un peu plus l'utilisation. Enfin, c'est presque plus des aspects virtualisation classiques à la VMware Fusion et compagnie. Peut-être plus que du pur container de serveur, quoi. Mais en tout cas, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Arnaud, le suivant là,
oui,
sur
c'était
les...
un plugin Maven qui permet de détecter. Donc après, il a pas l'air d'exister en librairie indépendante, mais le Modernizer Maven plugin, c'est trop beau comme nom, et qui a pour but en fait de vous lui donner en gros, bah,
de moderniser Maven.
ça télécharge Gradle. Non, bon, d'accord, ok, merde, j'ai rien dit. Alors non, c'est pas encore ça. Non, le but, c'est effectivement, c'est plutôt de d'analyser votre code source et de vous donner des... Donc après, c'est un peu comme Findbugs et compagnie, donc ça serait bien d'ailleurs que ce genre de truc soit plutôt remonté dans du sonar, mais bon, aujourd'hui c'est un plugin Maven qui permet donc de te dire, bah tiens, tu fais du Java 7 aujourd'hui ou du Java 8, bah tiens, tu peux remplacer telles API par telle autre, telle classe par telle autre, parce que bah voilà, enfin, on n'utilise plus genre les vecteurs, on utilise les arrays, on n'utilise plus je sais pas moi, les string get bytes,
les stacks,
et pareil, il permet de proposer aussi d'utiliser des librairies tierces des fois sur, bah, par exemple, des Guava, etc. Quand tu utilises une vieille, un vieux truc de Guava, d'utiliser la nouvelle version. Donc voilà, donc ça donne les bonnes pratiques, ça te donne des bonnes idées de qu'est-ce que vous pouvez améliorer, comment améliorer votre code pour utiliser les dernières nouveautés des API, que ce soit chez Java ou dans quelques API tierces. Voilà. Donc c'est un peu.
Et là, pour le moment, il supporte 70 éléments, je crois.
Ouais, c'est ça, 70 API legacy. Donc bon, il y a de quoi faire. Donc voilà, donc c'est juste un petit jouet. Si l'équipe Sonar nous entend, tiens, ça serait bien qu'on ait ça aussi. Voilà, merci.
C'est vrai.
Bon, ouais, c'est vrai. Ça, dans les autres nouveautés outillage, bon bah on me l'a soufflé dans l'oreillette tout à l'heure, c'est Gatling 2 qui est sorti. Donc ça fait un petit bout de temps qu'il était en préparation. Donc c'est un outil donc pour faire de la perf, enfin des tests de perf, de montée en charge, concurrent par exemple de JMeter. Donc dans la version 2, je vous listerai pas les nouveautés qui d'ailleurs sont un peu compliquées à trouver, je dirais ça pour les auteurs de Gatling, mais il fallait les chercher. Donc mais bon, en gros, bah pas mal de mises à jour sur leur infra technique de Java, Scala, etc. Parce que oui, c'est du Scala, au secours. Mais bon, c'est du Scala simplifié. Hein. J'en ai fait, effectivement, on arrive à faire des choses même propres. Alors donc, comme quoi on peut faire du Scala propre, ou alors on peut faire du Gatling propre, je sais pas, mais on peut faire des choses simples.
Un expert Scala qui m'avait dit, quand j'étais allé à la conférence Scala.io, que le code n'était pas très idiomatique Scala. Alors, je sais pas, je pense que c'est peut-être plus sur l'implémentation peut-être elle-même que l'utilisation du DSL.
Bah, après,
Scala.
C'est très simplifié. Ça reste effectivement le DSL, ce qu'ils en exposent et ce qu'ils en utilisent. Voilà, on peut faire vraiment, déjà, on peut vachement le javaifier, pour ceux qui font du Java. Et après, voilà, ça reste très simple. C'est, en gros, oui, c'est du fonctionnel. C'est ce qu'on aimerait dans du Java 8 ou des choses comme ça, où effectivement, manipuler plus facilement, voilà, les fonctions, enfin, tout un tas de choses. Donc, mais voilà, ça reste du Scala léger, généralement. Enfin, sauf, j'ai jamais vu jusqu'à aujourd'hui des trucs de fou écrit en Scala pour faire du Gatling, mais bon, à mon avis, rien ne l'empêcherait pour ceux qui veulent se faire plaisir, mais voilà, ça reste. Donc là, le gros avantage, c'est que contrairement à du Gmeter où là, bah, c'était une UI pour écrire les tests avec derrière la génération d'un fichier qui était en quoi d'ailleurs, était en XML ou était dans un format propriétaire, je sais plus, mais en gros, on fait les scénarios, on les écrit dans un langage, donc ça aurait pu, moi j'aurais préféré que ce soit du Groovy, mais bon, c'est un choix pas perso, mais voilà, c'est un langage simple, on écrit ses tests, le va sur telle URL, fais tel truc, fais tel machin, t'attends tel temps, voilà, c'est vachement plus efficace et maintenable surtout, parce que bah voilà, derrière on peut bah refactorer facilement, réécrire le code, factoriser, enfin voilà, c'est plus simple que du DSL à la Gmeter, qui est bon, un peu barbare des fois à maintenir dans le temps, c'est un peu plus sympa. Et après, à point de vue perf, on écoute les uns les autres, c'est toujours l'autre qui est le meilleur, etc. Donc bon, ça après les combats, mais bon, c'est vrai que Gmeter à un moment c'était essoufflé, il y avait plus trop d'activité, ça a repris ces dernières années, certainement justement du fait du démarrage de Gatling, ça a repris un peu du poil de la bête avec pas mal de nouvelles releases. Bon voilà, donc les deux tiennent la route, mais voilà, Gatling 2 est sorti officiellement là il y a quelques jours.
Il y a un plugin Maven pour Gatling.
Il y a un plugin Maven, bien sûr. Il y a un plugin Maven, oui, tout à fait. Tu peux automatiser l'exécution de tes tests dans un module Maven, etc.
Il y a un plugin Gradle.
Je supposerais, mais en fait, c'est vrai que j'ai jamais vu, donc je suis pas sûr, par contre, sur le coup.
D'accord.
Sur le coup.
Tu fais aussi le Log Analyzer,
Alors là, celui-là, effectivement, là, par contre, ça me dépasse un peu, mais c'est, à première vue, c'est quelque chose qui a été montré côté Java One. Ça s'appelle JTwatch, donc c'est dans le projet Adopt OpenJDK. Donc dans toute cette forge là où ils mettent un peu de choses liées à la JVM et au JDK, et c'est un projet, donc c'est un petit outil qui va permettre d'analyser le comportement du JIT de la JVM. Et donc bon bah, comme vous le savez, on peut, enfin au runtime, il y a tout un tas d'optimisations qui sont faites sur le code exécuté, des recompilations, etc. La JVM permet, elle, de générer des logs de ce qui se passe pendant que votre application tourne. Et donc bah, cet outil-là va vous permettre à la fois d'avoir des visions un peu plus graphiques de ce qui se passe dans les optimisations, de quand est-ce que ça se passe, pourquoi c'est recompilé ainsi, pourquoi est-ce que... Donc l'idée derrière, c'est en fait pour ceux qui ont vraiment des gros besoins, une fois de plus, on parlait tout à l'heure des problématiques de performance qui sont pas les mêmes dans un soft orienté crude d'un truc en banque où effectivement il y a besoin de performance. Là c'est pareil, c'est dans les choses où on a besoin vraiment de travailler les aspects mémoire, l'optimisation de l'application, etc. Et donc là, bah, le but, ça va être d'être capable de comprendre le comportement du JIT quand son application fonctionne. Donc voilà, il va falloir faire un test, la faire tourner, voir comment le JIT fonctionne et comprendre ce qui se passe derrière, pour derrière optimiser le code, sachant que derrière ça découle sur quelques propositions. Il y a des petites fiches pour dire bah tiens, là il fait ça comme ça, peut-être que si tu écrivais ton code comme ça, ça serait peut-être mieux optimisé, etc., etc. Voilà, donc c'est un outillage pour Java, pour analyser mieux le JIT, ce qui se passe dedans, ce qui peut être un peu obscur par défaut quand on rentre là-dedans, et pour bah, avoir une meilleure idée de comment améliorer son code. Et derrière, l'optimisation qui est faite par la JVM.
D'accord.
Perso, pas testé, mais voilà.
Ok. Après toutes ces news techniques, passons à l'humain.
Il y a des gens derrière. Oh là.
Eh ouais, il y a des gens. Des gens riches, tiens. Larry Ellison, par exemple.
Très riche.
Là, qui a annoncé quitter le poste de CEO d'Oracle.
Il veut faire du bateau.
Il reste quand même, malgré tout, CTO et président du board, là, du directoire.
C'est ça.
Et du coup, il y a, c'est quoi les noms des, c'est Heard et Katz, qui étaient ces deux bras droits qui deviennent CEO. Du coup, il y avait des jeux de mots qui étaient faits sur l'expression en anglais Herding Katz, c'est, comment dire, comment on traduit ça en anglais?
Rassembler un troupeau, non? C'est pas ça?
Ouais, ouais, élever, rassembler un troupeau. Et du coup, ils font des jeux de mots sur Herd et Katz, qui sont les noms des deux remplaçants CEO.
D'accord.
Arnaud, tu avais rajouté l'article sur tous terroristes.
Oui, bah après ça avait pas mal tourné dans la presse et vous avez certainement dû le voir passer dans les journaux. Il y a eu quelques semaines où est passée une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui était sur alors je sais plus comment qu'elle s'appelle la loi, j'ai encore oublié son petit nom, mais en gros, bah, c'est pour essayer d'avoir un arsenal légal plus efficace contre le terroriste. Et bien sûr, il y a tout un volet qui concerne le net et qui a été accepté malgré pas mal de personnes qui s'y opposent. Et en gros, qui permet à l'État ou à force de police, etc., de faire un peu tout et n'importe quoi sur le net sans passer obligatoirement par un juge. Et donc, bah, le filtre, on parle de filtrage d'Internet, on parle de accéder à des dossiers, etc., sans grand contrôle. Donc on critiquait beaucoup aux États-Unis le Patriot Act. Il a fallu qu'on copie ce qui est pas bien et
on peut être aussi fort que les Américains
aujourd'hui.
Oui.
Donc ça a été adopté. Alors je sais pas tout le détail de ce qui a été adopté côté Assemblée nationale. Je suppose qu'après il y a une deuxième lecture, ça doit être au Sénat, et je sais pas s'ils vont en rejeter une partie ou quoi, ou s'il y aura des appels plus loin. Mais je vous ai remis un site qui est présumé-terroriste.fr où effectivement les gens expliquaient pourquoi il fallait que ce genre de chose, ça passe pas, parce qu'on parle d'un côté de neutralité du net, on essaye tous d'aller dans ce sens-là et d'avoir un maximum de choses disponibles, ouais. Et après sous la fameuse liberté qui est dangereuse contre le terrorisme, on se dit non, on va finalement vous en couper une partie, on va vous protéger contre vous-même, donc ça reste intéressant à lire, mais c'est triste, c'est notre cher D'accord. pays.
On est tous des terroristes.
Voilà. Faites attention à ce que vous dites et ce que vous faites sur Internet.
Et après la chasse aux terroristes, il y a la chasse aux sorcières.
La transition. Je
suis payé pour.
Le code sorceresse, où effectivement, donc là, cette fois, c'est certainement que beaucoup d'entre vous connaissent les duchesses, et notamment les duchesses, donc, qui sont les représentantes féminines, des développeuses, à l'origine plutôt orienté JVM Java, et donc ils ont créé un groupe un peu plus large de scope, donc qui est cette fois pour représenter les femmes dans l'IT, donc là c'est au niveau européen, c'est le cercle des codes sorceresses, et donc elles sont en train de mettre en place des ressources et un réseau. L'idée est toujours le même, c'est essayer de promouvoir et de faire de l'entraide entre les femmes dans l'IT qui effectivement sont sous-représentées et pas toujours aidées pour retrouver leur place, et donc c'est essayer de faire bouger les choses. Si vous mesdames vous voulez essayer de prendre une place là-dessus, n'hésitez pas à rejoindre les codes sorceresses.
Et passons à une petite section divers avec des petits trucs rigolos et sympas, de sécurité aussi d'ailleurs. oui, il y en a qui coûtent cher, c'est ça, on va y revenir. J'avais trouvé un petit site sympa et rigolo là sur les courbes de Bézier. Donc la manière de définir des courbes de Bézier, et puis est-ce que vous arrivez à tracer vous les courbes de Bézier pour suivre et dessiner certains chemins. Ça c'est histoire de passer 5 minutes si vous vous embêtez. Vous avez un bug à corriger et puis vous avez besoin de vous sortir un peu de ce bug de la tête. Ça peut vous divertir 5 minutes.
J'ai essayé, c'est pas simple.
Ouais, c'est pas si simple.
Non, c'est pas si simple. Ouais.
C'est vrai. Sinon, il y a, donc là, c'était justement le côté moins cool. Là, c'est côté sécurité encore. Il y a Google, là, qui est en train de se dépêcher de tuer SHA-1, donc le digest SHA-1, qui est beaucoup utilisé dans les certificats SSL, donc dès qu'on fait du HTTPS, et qui, alors moi je connais pas exactement le, tu saurais en dire un peu plus, toi?
Failles
de sécurité de SHA-1 et
les failles exactes, c'est surtout que de nos jours, ça reste léger comme type de protocole de digest à côté d'autres existants. Donc par exemple le SHA-256, donc le SHA-2, ils l'appellent, mais c'est le SHA-256. Et donc, à l'ère, en 2014 ou aujourd'hui, on a pas mal de trous de sécurité, de problématiques. SHA-256, c'est supporté finalement par beaucoup de monde, tous les serveurs, etc., supportent ça. C'est pas encore utilisé, on continue d'utiliser le SHA-1 pour le digest de pas mal, effectivement, comme tu disais, de certificats, etc. Donc Google, eux, ils aimeraient, pour des raisons de sécurité et puis d'avancer, tuer au fur et à mesure le SHA-1 et aller sur du sur du 256, sachant que après ils travaillent beaucoup justement sur ces aspects-là, parce qu'ils avaient proposé, alors je me rappelle, là je vais plus me rappeler du nom, mais un remplaçant pareil pour SSA, pour le module Apache SSL. Ouais. Je me rappellerai plus son nom, ça me reviendra, mais voilà, ils sont quand même très actifs parce qu'ils ont de plus en plus eux-mêmes à gérer de services protégés. Et donc bah il faut essayer de trouver bah à la fois des choses qui soient pas trop gourmands en ressources et puis bah qui soient quand même un maximum sécurisées. Donc là-dessus ça les intéresse.
Ah, c'est du charabia.
Charabia, voilà, c'est ça.
Bah, tiens. Et en parlant de charabia,
voilà, parle de mon français, et de... tiens.
Tu vois, alors là, je fais des efforts sur les transitions.
Là, franchement, vas-y.
En parlant de charabia, les mots français de l'informatique, il y a des nouveaux mots. Donc, c'était lequel que t'aimais bien, toi,
Vincent?
Ah, moi,
c'était thumbnail. Imagettes.
Des petites images, c'est des imagettes. Et il y avait aussi
le back office, il y a back office et front office.
Attends, c'est quoi, il est où? Ah oui, le back office, c'est l'arrière guichet. Donc ça c'est le, et attends, c'est quoi la commission générale de terminologie et de néologie. Je sais plus, et c'est listé au journal officiel.
Voilà, c'est ça. Ah oui, non, c'est
et
pas
attends,
une blague.
Et attends, il y en a un autre que j'aimais bien. Bon, quand c'est, tu vois, le blog, weblog, d'écrire un blog, blogue, pourquoi pas.
Ouais, c'est pareil, quoi.
Pareil, le carrousel, bon, pour les carrousels,
on faudrait demander à nos amis canadiens comment ils disent, les thumbnails et les back office.
Henri, si tu nous entends, merci de nous aider.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui était sympa? Microblogage, microblogging.
Les autres étaient un peu classiques, je trouvais.
Ouais, les autres étaient presque pas graves.
Troubleshooting, traitement des incidents, c'est gentil. Bon, il y en a, ou dire que e-ink ou electronic ink, c'est encre électronique, c'est de la traduction, donc c'est pas choquant.
Ouais,
quoi.
C'est ça.
Mais c'est vrai que
c'est même pas drôle.
Même, là. c'est même pas drôle. Mais bon, effectivement, les arrière-guichets, le back-office, bon.
L'arrière-guichet.
Celui-là, faut déjà plus réfléchir.
Avec Mark Reynolds et son trace, on aurait pu finir en arrière-train. Alors, attention. Donc, je crois que, on est bon, quoi.
Bon, on continuera à utiliser les termes anglais, je pense, pendant 20 ans encore.
Ouais, toujours nos vieux défauts, mais effectivement, on n'est pas aidé.
Ouais. C'est clair. Attends, zut, j'ai fermé la fenêtre. Où est-ce qu'elle est? Ah!
Tu voulais parler de GitHub dans Gmail.
Ah oui, je le rouvre. Là, il y a GitHub là, qui a annoncé, récemment là. Donc j'ai pas rajouté dans les show notes. Ils ont un nouveau truc d'ailleurs sur des diffs sur des SVG par exemple.
Ah non, ça marche. Je l'avais pas vu. Non, il y avait le diff side by side sorti... que j'ai vu l'autre fois.
Ah ouais, mais on l'avait
déjà dit
la dernière fois. Ouais. Et donc là, ce qui est nouveau, le diff des SVG que j'ai pas mis dans les show notes, mais là c'est un truc que j'aime bien en fait. C'est donc si vous utilisez Gmail en tout cas.
Et GitHub,
oui, les deux. Vous verrez affiché dans la liste des messages quand vous voyez vous savez, le nom, le sujet, etc., la date. Et vous avez un petit bouton qui apparaît avec, par exemple, View Pull Request ou View Issue. Et donc, vous pourrez carrément cliquer directement sur le lien et ça vous amènera directement à l'issue ou au pull request. Donc ça vous évite de trouver le lien à l'intérieur du mail, etc. Mais je trouve que c'est super convivial à utiliser ça. Et du coup, j'ai déjà vu comme ça. Et ça m'avait surpris parce que j'avais déjà vu moi dans mes emails View Pull Request. Je me suis dit, mais ça vient d'où ce truc-là? Et apparemment, donc c'est des espèces de micro-data dans le HTML de l'email qui sont reconnus par Gmail. Et apparemment, on peut soi-même créer ce genre d'actions là, ils appellent ça des actions Google Gmail. Et donc par exemple, je sais pas si XWiki envoie un mail des dernières mises à jour du wiki, tu pourrais avoir un bouton voir les différences par exemple.
Ouais, on l'a déjà, ouais.
Mais un bouton qui apparaîtrait
dans le titre de l'email.
La UI, dans le titre de l'email. Clique sur le lien, tu verras ce que je veux dire. Et tu pourrais avoir ce genre d'action-là qui apparaissent directement dans ton Gmail, sans avoir un lien à l'intérieur, si tu veux, de l'email. Donc, c'est assez sympa.
D'accord.
Et pour rester un peu sur Google Mail, là c'est un autre projet Google, deux autres projets Google, c'est Android et Chrome. J'ai vu un article sur le fait qu'on peut faire tourner des applis Android sous Chrome. Ça peut être utile et pratique. J'ai pas encore essayé.
Non.
Mais ça peut être sympa.
Tester, ouais. Il y aura des trucs sympas.
Pour encore une transition, vu qu'on parlait d'Android et du mobile, vous avez vu là le Bend Gate avec l'iPhone 6 et sur le fait qu'il se plie.
Il s'adapte à la forme de ta poche. T'as rien compris, franchement.
Bah, ouais. Ah, d'accord, c'est une feature.
Mais c'est une feature, en fait. Mais bien sûr, c'est pas un bug.
C'est pour quand enfin, tu t'assois, tu l'as dans la poche arrière, voilà, de ton pantalon.
Voilà, ouais, c'est ça. Ouais.
Et tu peux d'accord. t'asseoir comme ça.
Bon.
Parce que bon, ça me
trouve. Bon, de toute façon, moi je trouve que c'est devenu trop cher les prix maintenant.
Bah ouais, 700, 900 euros.
1000 euros, on atteint les 1000 euros maintenant sur les iPhone Plus, sur le 6 Plus.
C'est ça.
C'est horrible. Moi, en fait, c'est marrant parce que donc là, j'ai changé de téléphone. Là, j'ai un One Plus One, un Android, et je me disais bon, je vais quand même attendre ce qu'ils vont sortir avec l'iPhone 6, tout ça, avant de me décider. Et quand j'ai vu ce que c'était l'iPhone 6, il y a pas grand-chose de neuf, quoi. Et puis ça rattrape juste ce que les Android font depuis 2 ans. Hein. Enfin, on en avait parlé déjà dans le dernier épisode. Du coup, j'étais un peu déçu. Et puis je me suis dit, bon, je vais rester sur Android, c'est très bien. Et puis au moins, je pourrais programmer en Groovy dessus. Nah.
Après, pour le... tu payes 1000 euros, et puis après, tu le laisses tomber, tu casses un truc, tu mets du liquide dessus, c'est etc. C'est fini, quoi.
C'est ça.
Ouais.
Mais pour en revenir d'ailleurs au Bengate, j'avais vu un article dans la presse. Sur... Non, c'était d'ailleurs... C'était d'ailleurs dans l'équivalent des consommateurs chez nous là, qui est aux États-Unis là, de l'organisme qui représente les consommateurs, qui d'ailleurs était venu donc sur ce sujet-là du Bengate, et ils avaient eux testé l'effet que effectivement l'iPhone se plie sur différents téléphones qu'il y a aujourd'hui,
du
et
commerce,
donc notamment chez Android, alors je sais plus lesquels, c'était
Samsung,
les Samsung, etc.,
et autres,
avec des grands écrans et tout, et en gros non il y a aucune différence, c'est tous à peu près les mêmes, de toute façon dès qu'ils sont grands et fins ils se plient tous autant, hein. donc au final c'est une fois de plus c'est des babilles,
et tout, j'ai l'impression
qu'il y en a qui ont
des
projets pour faire des téléphones qui se plient en plus, hein.
Oui, voilà, non, des projets sérieux, mais effectivement sur ce coup là oui, obligatoirement faut s'y attendre, hein. Plus les téléphones seront fins et grand, plus facilement on pourra les plier, donc ils seront fragiles, ça c'est, et donc ça vaut
surtout
pas que
ça risque, surtout que ça risque de coûter cher à Apple s'il doit avoir rapport, si ça se plie vraiment souvent, rapatrier pas mal.
Si, ils veulent bien.
Oui, c'est ça, je suis pas sûr qu'ils le prennent.
Ah oui, t'as vu leur réponse que j'ai vue, c'était mettre une coque, envoyer une coque à ceux qui.
Ouais, ouais, mais après,
c'est
pour les autres, c'est pareil, Samsung,
c'est un peu nul, quoi. Il faut un beau design, tu l'achètes parce que t'as un beau design et ils te disent, non, il faut que ça marche avec une coque, en fait.
C'est ça. Ouais, non, mais la montre, j'espère que ça sera pas pareil, qu'il faudra pas une coque autour, parce que ça prend un peu de place, quand même.
Oh la vache, ça va être pratique à utiliser, ça, encore.
Mais bon.
Rapidement.
Bah vas-y.
Bah moi je connais pas, mais qu'est-ce qu'il y a?
Donc, t'es le mieux placé pour en parler.
Non, moi je peux parler. Alors je peux parler d'un. Est-ce qu'il y a une annonce? Ça a été annoncé aujourd'hui. C'est le Google Summer of Code 2015 qui vient d'être lancé.
Ah déjà.
Donc c'est pas une conférence, mais c'est pour les étudiants qui travaillent sur des projets open source. Et puis il y a le Code In 2014. Je sais pas si vous aviez suivi le Code In.
Je connais
pas. Non.
Parce qu'il y a Google, ça fait déjà 4 ou 5 ans que Google fait ça, et là donc il y a la version 2014 qui est lancée. C'est pour des ados, des ados entre 13 et 17 ans, pré-université, et pour leur faire découvrir le monde open source. Et donc c'est un concours que fait Google qui s'appelle Code In pendant 7 semaines. De décembre à janvier, donc là de décembre 2014 à janvier 2015, qu'ils apprennent c'est quoi un projet open source, comment ça marche, comment les gens y participent, enfin vraiment découvrir le monde open source.
D'accord,
c'est cool ça.
Voilà, ils sont diversifiés, hein, ils sont séparés en deux en fait, le Summer of Code et le...
Et le coding qui est pour les jeunes.
Et le coding,
voilà,
donc si vous avez un projet open source, préparez-vous à soumettre.
D'accord, intéressant.
Et sinon, qui parle du Code Week?
Toi, tu parles bien, non?
C'est pas moi qui l'ai rajouté,
non,
d'accord.
Non plus, mais effectivement, donc il y a le Code Week, qui est une semaine dédiée au code en France et partout en Europe. C'est une initiative de la Commission européenne pour promouvoir l'apprentissage du code. Et ça se passe du 11 au 17 octobre de cette année.
Bah, c'est la semaine prochaine.
C'est la semaine prochaine. Donc,
Emmanuel
Dépêche Code Mixé.
Et il faut faire quoi?
Première vue, c'est tout un tas d'événements qui sont organisés, qui sont répertoriés donc sur codeweek.eu. Et donc ils sont liés justement à tout ce qui est le code. Donc là après j'ai pas la liste, enfin j'ai pas regardé en détail, mais c'est des présentations, des qu'est-ce qu'ils disent, find an event près de nous, et
les Duchesses aussi en organisent.
Les Duchesses en organisent un, première vue, voilà. Donc en France,
il y en a beaucoup.
Ouais, il y a du monde en France, hein, mais après j'ai pas le détail, mais Tu vois, c'est plein d'ateliers sur comment, ouais, voilà, tu vois, faire son jeu vidéo, faire un hackathon.
27 sur Paris, je vois, par exemple.
Un truc sur Ruby Rails. Donc voilà, donc beaucoup de choses qui sont organisées là cette fameuse semaine-là pour promouvoir le code, voilà, en Union européenne.
Et puis sinon, il y a DevFest à Nantes, là, bientôt.
Ouais.
C'est quand déjà? Dans une semaine, deux semaines? Attends, c'est quoi? Et donc voilà,
ça.
Je crois que c'est tout. Puis il y a d'autres conférences qui étaient listées là sur le site de T'as fait pipi. Jax London, etc. Et puis dans un mois,
Devox.
Où est-ce qu'on va?
Devox.
Devox qui, je crois qu'il y a plus de. Si, il reste des places en université, il me semble. Le reste, mais il n'y a plus de place pour le reste. Il reste que l'université. Ouais. Voilà. Donc, si vous voulez venir le lundi, mardi pour les universités, il reste encore un peu de place.
Ou sinon, vous venez le vendredi.
Voilà.
Ouais, ça, ça
faut écouter les cascadeurs.
C'est vrai.
Voilà.
Ça vaut le déplacement.
faut bien venir que pour ça, d'ailleurs.
Voilà. Voilà, on a fait le tour de toutes les news. Merci de votre attention. Comme quoi, on n'a pas besoin d'un grand chevelu
et d'un petit barbu, pardon.
et d'Emmanuel. Si, Emmanuel, on a quand même besoin pour le mixage. C'est quand même le plus long.
C'est ça.
Nous, faire l'enregistrement, ça nous va. Mais après, le mixage, c'est du sacré.
C'est
boulot.
Ça. Enfin, nous, on peut secouer, on peut essayer d'en faire quelque chose, mais je suis pas sûr que vous allez apprécier le résultat. Ça va pas rester audible.
Secouer, mixer.
Bon.
Voilà, écoutez, à très bientôt.
Merci à tous.
Dans le prochain épisode des Cascodeurs.
À bientôt.
Gros bisous.
Ciao.
Codez bien. Ciao. Pas de bug.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.